إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 87 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec le commentaire de Sheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Le Sheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite: Wa thum ikhtalafa ha'ula, hal yumna'u min at-tazkiyati bi sa'ir al-'idham عملا بعموم العلة على قولين في مذهب أحمد وغيره، وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم: أما الظهر فمدى الحبشة، يعني بعد قوله سأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز يعني أن يكون نهيه عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. أما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاء بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. Donc le Sheikh il explique que, comme on a expliqué au dernier cours, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de, quand on égorge un animal, d'utiliser les os ou les griffes et les dents des animaux. Et il expliquait que la raison de ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça fait partie des instruments que les Éthiopiens utilisaient. Ils utilisaient leurs griffes ou leurs ongles pour égorger, et pour ne pas leur ressembler, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire ça aussi. Puis après ils ont divergé, est-ce qu'on doit interdire, c'est-à-dire les ulama ont divergé, est-ce qu'on doit interdire également toutes les différentes formes d'ossements que les gens pourraient utiliser comme outil pour égorger un animal ou non, en agissant selon la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et il dit, il y a deux positions là-dessus dans le madhhab de l'imam Ahmad et dans d'autres parmi les madhhab aussi. Et il y a aussi dans d'autres positions qui ont été mentionnées, parce que certains ont divergé en trois positions différentes. Et il dit que c'est par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il dit que al-dhufur fa mud al-habasha, c'est-à-dire que les ongles, c'est ce que les Éthiopiens utilisaient comme instrument ou comme comme outil pour couper ou pour égorger l'animal. Il a dit ça après avoir mentionné qu'il va dire la raison pour laquelle ça a été interdit. Donc ça, ça implique que c'est que cette description, le fait qu'il ait dit que c'était l'instrument utilisé par les Éthiopiens, que cette description-là a un effet sur l'interdiction, que ça a une influence sur l'interdiction, ou bien que c'est la raison de l'interdiction, ou que c'est quelque chose qui indique la raison, ou que c'est une description parmi les descriptions de la raison de l'interdiction, ou sa preuve. Donc, il dit que les Éthiopiens, ils avaient des ongles longs, puis ils égorgeaient avec ces ongles-là. Et ça, c'est quelque chose qui était particulier avec qu'est-ce que eux faisaient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres peuples qui faisaient ça à part eux. Et donc, c'est possible que l'interdiction qui a été mentionnée, c'était à cause de l'interdiction de leur ressembler, puisque c'était quelque chose qui leur était spécifique. Il dit, en ce qui concerne les os, il dit c'est permis, ou bien c'est possible que l'interdiction d'égorger avec les ossements, c'est semblable à l'interdiction aussi de l'utiliser pour se nettoyer après qu'on a fait nos besoins. Pourquoi? Parce que ça rend impur les ossements, puisque le sang, c'est quelque chose qui est impur. Puis il dit que donc ça le rendrait impur pour les djinns, parce qu'on sait que les os, c'est la nourriture des djinns. Puis il dit que le but, c'est pas ici de rentrer dans les détails de la question de zakat, c'est-à-dire le fait d'égorger ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose dont on pourrait discuter. Il y a d'autres choses à dire là-dessus dans un autre contexte. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là qu'on vient de lire maintenant. Il dit « قَوْلُهُ ثُمِّ اِخْتَلَفَ هَوْلَا هَلْ يُمْنَعُ مِنَ التَّذْكِيَةِ بِسَائِرِ الْعِظَامِ خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التذكية بالظفر لأنهم مدى الحبشة ونحن منهيون عن التشبه بهم لكونهم كفارا وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que en résumé, on peut dire que l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم de nous avoir interdit de faire d'égorger un animal ou de sacrifier l'animal avec les ongles, parce que c'est qu'est-ce que les Éthiopiens utilisaient à l'époque, et donc nous on a été interdit de le faire pour ne pas leur ressembler parce qu'ils étaient des koufars. Ça, c'est qu'est-ce qui est apparent de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit wa qawluhu amma al-'azm فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية يعني يمكن أن يكون النهي عن لأجل أنه طعام إخواننا من الجن كما جاء في الحديث الآخر من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم وقال إن الروث طعام الجن لدوابهم والعظم طعام لهم فنحن نهينا أن نفسد ذلك على إخواننا من الجن المؤمنين طعامهم وطعام دوابهم. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne les ossements, qu'on n'aurait pas le droit de les utiliser pour égorger l'animal, il dit c'est possible que c'est parce qu'on ne doit pas les rendre impurs, comme on n'a pas le droit non plus de les utiliser pour se nettoyer après qu'on ait fait nos besoins. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, quand ils étaient dans un endroit désert, à l'extérieur, puis qu'ils allaient faire leurs besoins, ils prenaient qu'est-ce qui était à proximité ou qu'est-ce qui était à portée de la main. S'ils trouvent des pierres, ils utilisent des pierres. Donc, s'ils trouvent, par exemple, il y a des fois des ossements d'animaux ou des choses comme ça, ils vont utiliser ça pour se nettoyer avec ou pour enlever les impuretés avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas utiliser les ossements des animaux, de même que les crottins des animaux, parce que c'est la nourriture des djinns. Les crottins, la nourriture de leurs bêtes, de leurs animaux, et les ossements, c'est leur nourriture à eux, c'est-à-dire la nourriture de nos frères parmi les djinns. Et donc, on a été interdit de se nettoyer ou de s'essuyer avec des ossements pour pas corrompre la nourriture de nos frères parmi les djinns qui sont croyants. De même que la nourriture, leur nourriture et la nourriture de leurs animaux, leurs bêtes. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite: Wa aydan fa fi as-sahihayn 'an az-Zuhri wa 'an Sa'id, 'an Sa'id ibn al-Musayyib qala: Al-buhayra allati yamna'u darruha lit-tawaghit fala yajlubuha ahadun min an-nas was-sa'iba كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وروى مسلم من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر ابن لحي ابن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر ابن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. نعم. Donc qu'est-ce que ça dit ici? C'est par rapport aux animaux que les mouchriquins à l'époque, ils vouaient à leurs idoles. Et donc il y avait certains animaux, par exemple, qu'ils offraient à leurs idoles, puis quand ils les offraient à ces idoles, par exemple, ils leur coupaient les oreilles ou ils leur faisaient des trucs comme ça pour dire que on n'a pas le droit de monter dessus, on n'a pas le droit de les manger ou des choses comme ça. Ils faisaient des rituels comme ça avec des animaux. Puis tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des prophètes. C'est des choses que les mouchriquins ont inventées. Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre à ce sujet-là aucune révélation. Et le Cheikh, il explique ici, il dit que c'est rapporté dans As-Sahihayn, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Selon Az-Zuhri, selon Sa'id ibn al-Musayyib, qu'il a dit que Al-Bahira, التي يمنع درها للطواغيث فلا يجلبها يحلبها أحد من الناس. Donc c'est ça, c'est basé sur les explications de Al-Buhayra. Qu'est-ce que c'est? C'est parmi les animaux, il leur donnait des noms, puis il disait par exemple: tel animal, quand il est offert à l'idole, on n'a pas le droit de boire son lait, par exemple. Donc ça, c'était Al-Buhayra, le verset 103 dans Surat Al-Ma'idah. Il mentionne cet exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les noms de ces différentes choses que les mouchriquins faisaient avec leurs idoles par rapport aux animaux. Puis aussi dans Surat Al-An'am, il mentionne des choses là-dessus. On va les lire, les versets. Donc il dit, Allah, le verset 103, ça dit: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Donc il dit, la signification de ça en français: Allah n'a pas institué la bahira, ni la saiba, ni la wasila, ni la ham, ni le ham. Il dit, mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Naam. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on va les donner les explications, c'est que Al-Bahira, c'est celle que les mouchriquins, ils l'offraient à leur Dieu, ou à leur idole, ils n'avaient pas le droit de boire son lait. As-sa'iba kanu yusayyibunaha li alihatihim la yuhmalu alayha shay'un. Donc as-sa'iba, c'est yani l'animal, ils offraient ça à leur idole, elle peut pas porter rien sur son dos. Donc ils disent elle doit plus porter rien sur son dos parce qu'elle a été offerte à telle idole ou des choses de ce genre. Après, il mentionne que Abu Huraira a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Amr ibn Amir al-Khuza'i qui transporte ses intestins dans le feu de l'enfer. Et c'est lui le premier qui a fait ça. Yani sayyaba as-sawa'ib. Donc c'est lui le premier qui a ramené ces histoires de bid'a et de shirk, d'offrir des idoles, des animaux à des idoles ou des choses de ce genre. Et c'est rapporté également que l'imam muslim a dit, selon Abu Huraira aussi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a vu Amr ibn Luhay qui traînait ses entrailles dans l'enfer. Et Amr ibn Luhay, c'est le premier qui a amené les idoles en Arabie, parce qu'on sait que les Arabes, ils étaient sur la religion d'Abraham à la Mecque, ils étaient sur la religion d'Abraham et d'Ismaïl, mais qu'après le shirk est revenu, et celui qui a ramené la première fois les idoles à la Mecque, c'est Amr ibn Luhay. Okay? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il l'a vu dans l'enfer en train de tirer ses tripes et ses entrailles. Puis il dit que également Al-Bukhari, il a rapporté la même chose. Son nom c'est Amr ibn Luhay ibn Qam'a ibn Khindif Abu Khuza'a. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique tout ça, puis on va voir en détail les explications des différents noms qu'on a mentionnés: Al-Bahira, Al-Sa'iba, Al-Wasila et Al-Ham. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheikh, il va les définir plus en détail. Donc il dit que قوله البحيرة التي يمنع ضرها. نعم. Il dit هذا من عادات أهل الجاهلية حيث ذكر الله ذلك فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أنواعا من بهيمة الأنعام كانوا في الجاهلية يحرمون أكلها وركوبها ويحرمون ألبانها تعظيما للأصنام وهذا الفعل من عند أنفسهم ليس معهم برهان عليه. Donc le cheikh il dit que ce qu'il faisait avec les différentes bêtes comme al-bahira, il les appelait al-bahira, al-wasila, al-sa'iba, al-ham, et ainsi de suite. Il dit ça c'est des traditions de l'ignorance, de la jahiliya avant l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qu'il faisait à ce sujet-là dans surat Al-Ma'idah, le verset 103 dans surat Al-Ma'idah, que yani, il prenait certaines différentes sortes de bétail, parmi les animaux qu'on appelle les animaux de yani al-an'am, c'est-à-dire les bétails, comme les vaches, les chameaux, les moutons, hein, et ainsi de suite. Donc il prenait ces animaux-là, puis il les offrait à des idoles. Et il les rend, du moment qu'il l'offrait à l'idole, il le rendait haram, c'est-à-dire tu ne pouvais plus la manger, sa viande, tu ne pouvais pas non plus monter dessus, sur son dos, et tu n'avais pas non plus le droit de boire son lait, et ça c'était par respect pour les idoles. Et cette façon d'agir de leur part, c'est quelque chose qu'ils ont inventé d'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a révélé de faire ça. Et le cheikh il dit والله عز وجل قد جعل الأصل في بهيمة الأنعام الحل إلا ما استثنى من ذلك فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذه هي المحرمات من بهيمة الأنعام لأنها لم يعني تذكى yani zakatan shar'iyan. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala à la base il a rendu les bestiaux, hein, les animaux comme qu'on a à la ferme en général, que les gens, les arabes utilisaient comme bétail, eh bien ça à la base c'est halal, tout est halal là-dedans, excepté ce qui a été mentionné comme exception. Donc la règle de base c'est que c'est halal, sauf qu'est-ce qui a été mentionné dans la révélation comme étant haram. Et il mentionne à ce sujet par exemple les versets dans le Coran qui clarifient ce qui a été interdit en particulier. Et il cite le verset dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 1. Parce que dans le verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yani vous est permise la bête, bahimatul an'am, c'est-à-dire les animaux de bétail, yani ça vous est rendu halal, c'est-à-dire les vaches, les moutons, les chameaux, et ainsi de suite. Donc ça vous a été rendu licite. Sauf ce qui vous sera énoncé comme étant interdit. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, c'est dans le verset 1, dans Surat Al-Ma'ida. Qu'est-ce qu'il veut dire par qu'est-ce qu'il vous sera énoncé? C'est dans le verset 3. Qu'est-ce qui est énoncé dans le verset 3? Qui clarifie par la suite quelles sortes de bêtes sont interdites. Et il explique par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par la suite, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, ou celle qu'une bête féroce a dévorée, ou ainsi de suite. Donc, ça c'est les exemples qui ont été mentionnés par le Coran qui nous explique que la règle c'est que tout est halal si excepté si ça a été interdit par le Coran et par la Sunna. Donc il dit ça c'est le cheikh dit فهذه هي المحرمات من بهيمة الأنعام لأنها لم تزكى زكاة شرعية. Ça, qu'est-ce qui a été mentionné dans le verset 3 dans Sourate Al-Maïda, c'est ça qui est interdit parmi les animaux parce qu'elles n'ont pas été égorgées de façon islamique. Le reste c'est yani la base c'est que c'est halal s'il a été égorgé islamiquement, c'est halal. Après le cheikh il dit wa ahlul jahiliya harramu ashya'a min 'indi anfusihim fa minha al bahira qila al bahira min al bahr wa huwa al shaqq li'annahum yashaqquna adhanaha 'alamatan 'ala annaha lil asnam wa yaj'aluna albanaha li asnamihim. Donc le cheikh il dit que yani en ce qui concerne les gens de la jahiliya, ils ont interdit des choses d'eux-mêmes. Parmi eux, yani il y a al-bahira. Et al-bahira ça vient de al-bahar qui signifie al-shaq. C'est-à-dire qu'ils fendent les animaux, les oreilles des animaux. Et c'est pour ça qu'on les appelle al-bahira parce qu'ils ont été fendus dans leurs oreilles. On a coupé leurs oreilles pour faire savoir qu'elles appartiennent à l'idole, qu'elles ont été rendues exclusives à l'idole. Et donc ils rendent, ils font que, par exemple, ils disent le lait de cet animal appartient seulement à l'idole. Il ne peut pas être bu par quelqu'un, sauf par ou bien pris par l'idole. Bien entendu, l'idole ne peut pas le boire. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est les prêtres ou les gens qui s'occupent des idoles, c'est eux qui vont le boire. Naam. Donc, Cheikh il dit ensuite, wa amma sa'iba, fahiya allati kanu yusayyibunaha min al-ibil wal-baqar wal-ghanam, fala yantafi'una biha, wala ya'zanuna li ahadin an yantafi'a biha, wa yaj'alunaha musayyibatan lil-asnami ta'ziman laha. فلا يتعرض لها أحد السائبة comme on a dit tout à l'heure, السائبة c'est celle qui était aussi offerte à l'idole, le chameau, la vache, le mouton, et il profitait en mouton, vache, chameau, Hein? Ils ne profitaient pas du tout de ces animaux-là et ils ne montaient pas leur dos, hein? Parce qu'elles avaient été données ou offertes à l'idole. Donc, par respect pour l'idole, personne ne la touchait. Personne ne touchait à cet animal. وأما الوصيلة فهي التي يحددون نتاجها بأن تلد عدة مرات فإذا بلغت حدا في الإنتاج فإنهم يحرمون ظهورها من أن تركب وألبانها أن تشرب لأنها واصلت الولادة إلى الحد الذي حدوه وهذا من خرافاتهم وجهلهم. Donc, al-wasila, c'est l'animal, comme s'il lui donnait un nombre de fois qu'elle pouvait enfanter. Une fois qu'elle avait enfanté tel nombre de fois, alors, à partir de ce moment-là, c'était plus possible de monter sur son dos, de boire son lait, ou des choses comme ça, parce qu'elle a atteint le nombre de coucher, si on veut, ou de... Il y en a de bébés qu'elle pouvait avoir à la limite. Et donc, à partir de ce moment-là, elle était interdite pour l'utilisation. Et ça fait partie de leur superstition et de leur ignorance. Le cheikh il dit ensuite, « وَأَمَّا الْحَامِي فَهُوَ الْجَمَلْ الَّذِي إِذَا بَلَغَ ضَرَابًا مُعَيَّنًا سَيَّبُوهُ لِأَصْنَامِهِمْ يَقُولُونَ حَمَى ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوبِ وكل هذا يفعلونه تعظيما للأصنام وتقربا لها وافتراء على الله جل وعلا فإن الله لم يحرم هذه الأشياء وإنما حرموها من عند أنفسهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وقد ضلوا وما كانوا مهتدين فالله جل وعلا أباح بهيمة الأنعام بشرط أن تذكى زكاة شرعية فلا أحد يحرم شيئا أحله الله. Donc le cheikh il dit que al-hami c'est le chameau, quand il a atteint un certain âge ou quelque chose comme ça, donc ils vont l'offrir à l'idole. Puis ils disent, son dos est protégé. Ça veut dire que tu ne peux plus monter dessus, sur ce chameau-là. Et donc, ils font ça par respect pour l'idole et pas pour vénérer l'idole, pour se rapprocher de l'idole et ainsi de suite. Et ça, c'est un mensonge contre Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que Allah n'a pas interdit ce genre de choses. Et c'est eux-mêmes qui se le sont interdit, hein, d'eux-mêmes. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 140 dans Sourate Al-An'am, justement dans Sourate Al-An'am, il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des versets à ce sujet. C'est le verset 140, il dit, ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. 140 dans Sourate Al-An'am. Et donc, Allah Azza wa Jal a permis les animaux, hein, les bétails, à condition qu'elles soient égorgées d'une manière islamique, qui respecte la charia. Et personne n'a le droit d'interdire ce que Allah a rendu halal. Hein, ça c'est interdit. Et il dit, ومن جهة أخرى إذا كان هذا من باب التعظيم للأصنام فهو شرك أكبر وتقرب إلى الأصنام بهذه الأشياء التي خصوها بآلهتهم. Et il dit donc, un autre point de vue aussi, c'est quelque chose qu'ils faisaient pour exalter ou vénérer leurs idoles, respecter leurs idoles. Donc ça rentre dans le shirk majeur. Et c'est une manière qu'ils utilisaient pour se rapprocher de ces idoles par ces choses qu'ils ont rendues spécifiques ou particulières à ces idoles-là. Le cheikh il dit ensuite, قوله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. عمرو بن لحي الخزاعي هذا كان ملكا على الحجاز، وكان متنسكا متعبدا، ثم إذا ذهب إلى الشام، يعني إنه ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام فعجبه ذلك واستحسنه، ثم جلب الأصنام إلى أرض الحجاز ونصبها على الكعبة فتعبد من دون الله، وهو أول من سيب السوائب من بهيمة الأنعام، وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام، لأنهم كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم عليه السلام. Donc le cheikh il dit que il a vu que le à propos du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit qu'il a vu Amr ibn Amr al-Khuzai, qui est Amr ibn Luhay, il l'a vu tirer ses entrailles dans l'enfer. Il dit que cet homme, Amr ibn Luhay al-Khuzai, c'était un des rois de la péninsule ou de la région de la péninsule qu'on appelle Al-Hijaz. Et Al-Hijaz, c'est toute la région qui longe la mer Rouge de l'Arabie. Toute la région qui longe la région de la mer Rouge dans l'Arabie, parce qu'il y a une chaîne de montagnes et ça fait comme une genre de protection qu'on appelle Hijaz. Ok, c'est comme une barrière de montagne. C'est pour ça qu'on l'appelle cette région, on l'appelle Hijaz. Et c'était lui le roi de la Mecque et de Médine. Il s'appelle Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay al-Khuzai. Amr ibn Luhay. 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 Amr ibn Luhay. Et il dit que, donc, cet homme, c'est le premier, hein, c'est-à-dire que, il était le roi, un roi du Hijaz, de cette région-là. Puis, il était un homme qui aimait la religion, qui aimait l'adoration, ok, qui était pieux. Puis, il partit en Syrie, dans la région de Hacham, qu'on appelle. Pas nécessairement la Syrie. Hacham, c'est plus grand que la Syrie. C'est toute la région qui comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, hein, la Jordanie. Toute cette région, on appelle Hacham en arabe. Même une partie de la Turquie aussi. Donc, on appelle cette région Hacham. Il est parti dans cette région là-bas pour faire du commerce ou il y en a d'autres choses. Puis il a vu les gens adorer des idoles. Puis il a été séduit par l'adoration des idoles. Il a aimé ça. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu ramener les idoles avec lui dans la région du Hijaz. Et il les a installées, auprès de la Kaaba. Il a installé les idoles auprès de la Kaaba pour qu'elles soient adorées en dehors d'Allah. Et donc, c'est lui le premier qui a installé ses coutumes, ses traditions de couper ou fendre les oreilles des bestiaux pour les offrir aux idoles ou des choses de ce genre. Et c'est lui donc le premier qui a changé la religion d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, parce que tous ceux qui étaient avant lui étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui a corrompu la religion d'Ibrahim. Il dit « ثم انتشرت الوثنية » في أرض الحجاز من ذلك التاريخ إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله وأعاد ملة إبراهيم وحطم الأصنام ونشر العقيدة الصحيحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لوحي، يعني هذا هو صلى الله عليه وسلم، يعني رأى عمرو بن لوحي هذا وهو قائم صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يصلي بأصحابه، فتقدم وتأخر وهو يصلي، ثم أخبرهم عن سبب ذلك أنه رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه أراد أن يأخذ من يعني منها كتفا، ثم قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. Donc il raconte, il explique, le Cheikh Ibn Taymiyyah, que par la suite, à cause de Amr ibn Luhay, l'idolâtrie s'est propagée dans la péninsule, dans la région de la péninsule du Hijaz, puis par la suite dans toute l'Arabie à cause de ça, à partir de cette époque-là, jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vienne et qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ramène la religion d'Abraham à sa pureté et qu'il détruise les idoles et yani, qu'il propage la bonne aqidah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était debout en train de faire la salat de l'éclipse, la salat de l'éclipse, salat al-kusuf, et il était en train de faire la salat avec ses compagnons, puis il s'est avancé, puis il s'est reculé. Pourquoi? Parce que en fait, pendant qu'il était en train de faire la salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le paradis et ses délices, et lui a montré l'enfer et ses supplices. Alors quand il a vu le paradis, il s'est approché et il a voulu même prendre un fruit ou quelque chose du paradis. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je l'avais pris et que vous en auriez mangé jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. Mais quand il a vu l'enfer, il a vu dedans Amr ibn Luhay. C'est pour ça qu'il s'est reculé. À ce moment-là, il a vu l'enfer. Puis parmi qu'est-ce qu'il a vu en enfer, c'est Amr ibn Luhay qui tire ses entrailles. Allah musta'an. Donc le Cheikh il dit: وَرَأَ النَّارَ وَأَهْلَهَا يُعَذَّبُونَ فِيهَا فَتَأَخَّرْ خَوْفًا مِنْهَا وَرَأَ فِيهَا عَمْرُ ابْنُ لُحَيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيب السوائب. Donc il a vu l'enfer et les gens de l'enfer qui étaient en train de se faire châtier dans l'enfer. Alors il s'est reculé par crainte, par peur de l'enfer. Et il a vu dans l'enfer Amr ibn Luhay qui tire ses entrailles, yani ses intestins. Comme si son ventre qui est ouvert, ses entrailles qui tombent, puis il est en train de les tirer avec ses mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui le premier qui yani, a changé la religion d'Abraham. Et qui a yani, fendu les oreilles des animaux pour les offrir aux idoles. Donc il dit fa'allatu inkar fa'allatu na'am fa'allatu inkar fi'l al-mushrikin min tasyib al-sawa'ib annahu tahrim lima ahalla Allah wa annahu taqarrub lil-asnam taqarrub ila al-asnam wa hadha naw'un min anwa' al-shirk li'anna al-dhabh lighayr Allah aw habs al-amwal wal-awqaf على الأصنام شرك وكفر وتحريم ما أحل الله تحريم لما أحل الله. Donc le cheikh il dit que la raison pour laquelle يعني on condamne qu'est-ce que les mouchriquins font lorsqu'ils tranchent ou ils fendent les oreilles des animaux et qu'ils les offrent à leurs idoles, c'est parce que ça consiste à interdire ce que Allah a permis. Tu rends haram ce qui est halal. Et comme je le dis souvent yani, à des frères des fois, que de rendre haram ce qui est halal, c'est exactement la même chose que de rendre halal ce qui est haram. C'est aussi grave. Donc il dit le cheikh que c'est une des raisons pourquoi c'est condamné, le fait qu'est-ce que les mouchriquins font avec les animaux, les bestiaux, c'est parce que c'est de rendre haram ce qui est halal, c'est d'interdire certains animaux, de fendre leurs oreilles ou des choses comme ça, alors que à la base Allah a permis ces animaux-là qu'on les mange, qu'on boit leur lait, des choses comme ça. Et aussi, c'est une forme de shirk parmi les différentes formes de shirk. Pourquoi? Parce que ils les égorgent pour autre que Allah et ils les offrent à autre que Allah. il les donne aux idoles ou il les garde pour les idoles. Et de garder des biens pour les idoles et d'utiliser des biens pour financer des idoles, l'entretien des idoles, ou le shirk et le kufr, c'est clair que ça c'est quelque chose qui est haram et c'est en même temps une interdiction de ce que Allah a permis. Donc tout ça, ça prouve pour les raisons pour lesquelles c'est interdit. Et il dit ensuite, le sheikh, il dit وفي الحديث من الفوائد أن هذه العقوبة ليست قاصرة على عمرو بن لوحي بل يدخل في ذلك كل من غير دين الله ودعا إلى الضلال فليحذر هؤلاء الذين يحاولون تغيير دين الإسلام من خلال إحلال أنظمة الكفر المحرمة بدل أحكام الشريعة مدعين بأن هذه الأنظمة متطورة ومواكبة بأن هذه الأنظمة متطورة ومواكبة للعصر فليحذر هؤلاء أن يكونوا مع عمرو بن لوحي في جهنم يوم القيامة لأن عمرو بن لوحي إنما استحق هذا العذاب بتغيير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو التوحيد فكل من فعل هذا الفعل فله نصيب من هذا الذنب وهذه العقوبة. Donc le cheikh il explique que ce hadith il a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de choses bénéfiques dedans, et parmi les choses bénéfiques il faut comprendre que c'est pas un hadith qui est limité uniquement à Amr ibn Luhay pour dire que c'est lui qui va avoir ce châtiment là seulement. Non, parce que ça comprend toute personne qui a changé la religion d'Allah et qui a appelé à l'égarement. Et donc, que ceux qui déforment la religion d'Allah et qui la transforment, qui la changent, qui essaient de changer la religion de l'islam, soit en rendant halal des différents systèmes de kufr qui sont interdits, en essayant de les rendre halal et en changeant les règles de la charia, en prétendant que les nouveaux systèmes sont plus évolués et qu'ils sont en accord avec l'époque actuelle, ça correspond mieux avec l'époque actuelle. Le cheikh il dit que les gens qui disent ça fassent attention qu'ils ne soient pas avec Amr ibn Luhay dans l'enfer au jour de la résurrection, parce que Amr ibn Luhay il a mérité ce genre de châtiment parce qu'il a changé la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire il a changé la religion du tawhid, parce que l'islam c'est le tawhid et la religion d'Abraham c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Donc il dit que tout le monde qui fait la même chose que ce que Amr ibn Luhay a fait, il a une part de ce blâme et une part de cette punition ou de ce châtiment aussi. Oui, la bid'a ça rentre dans ça aussi, ça c'est clair. Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit هذا من العلم المشهور أن عمر بن لوحي هو أول من نصب الأنصاب حول الكعبة حول البيت ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء ومنه سمي القصاب بذلك لأنها تشبه القصب يعني القصب. Le cheikh il dit que la première, il dit ça fait partie de la connaissance qui est très connue, que Amr ibn Luhay, c'est lui le premier qui a mis les idoles autour de la Kaaba, il les a ramenés de la région de la Cham, comme on a dit tout à l'heure, pour imiter les gens de cette région. Il dit que, donc, le premier qui a ramené aussi le fait de fendre les oreilles des animaux, que ce soit Al-Sa'iba, ou Al-Wasila, ou Al-Ham, ou les catégories que Allah a mentionnées dans le verset 103 dans Surat Al-Ma'ida qu'on a lu au début, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il a vu dans l'enfer Amr ibn Luhay qui tire ses entrailles, qui tire ses entrailles dans l'enfer. Et donc après, le Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus, il dit: وهذا من العلم المشهور التشبه بما فعله ابن لحي هو من أعظم التشبه المنهي عنه وذلك لأنه شرك وكذلك البناء على القبور والاستغاثة بالأموات فهذا كله من أنواع من أشد أنواع المحرمات. Donc il dit le cheikh que ça c'est connu que le fait de ressembler à Amr ibn Luhay et à qu'est-ce qu'il a fait, ça fait partie des choses qui sont interdite, et c'est parmi les choses les plus graves dans lesquelles on pourrait imiter les mouchriquins, puisque c'est du shirk pur. Hein? Donc d'imiter les mouchriquins dans qu'est-ce qu'ils font comme shirk, ça c'est clair que c'est parmi les choses les plus interdites que quelqu'un peut faire. Pourquoi? Parce que c'est du shirk. Et il dit le shirk que la même chose aussi pour celui qui construit des mausolées ou des bâtiments ou des sanctuaires sur les tombeaux. Hein? Et de même que d'appeler au secours les morts. Donc dans certains pays, là, quand un homme pieux est mort, quand un saint est mort, quand un roi est mort, peu importe, il y a un homme important, un penseur ou un homme riche, quand il meurt, ils vont construire sur sa tombe une grosse mausolée ou bien un gros dôme ou un sanctuaire ou des choses comme ça. Et c'est ça qui amène les gens par la suite à tomber dans le shirk à propos de ces personnes-là. Parce que les gens vont aller par la suite pour les adorer en dehors d'Allah, dans leur tombe. Comme c'est le cas chez les chrétiens et chez les juifs, eh bien tu vois ça aussi chez les musulmans malheureusement. Et donc il dit que ça fait partie des plus grandes formes d'interdiction dans la religion d'Allah. Il dit wa fi hadha al-kalam tahdhir min an la yankhadi' al-muslim bi anzimat al-kuffar wa ma hum 'alayhi li'anna dinana wa lillahi al-hamd dinun kamil la yahtaju ila ziyadatin aw nuqsan aw inqas بل يحتاج إلى علم به وفهم ومن ثم تطبيق له. نعم. Donc le cheikh il dit que il y a dans ça également un avertissement dans qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Il y a un avertissement aussi, c'est que le musulman il ne doit pas se laisser tromper par les systèmes et les droits, les lois que les kuffars inventent. C'est-à-dire que le musulman, qu'est-ce qu'il prend comme système, comme loi qu'il suit? C'est la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la loi d'Allah, c'est quoi? La loi d'Allah, c'est qu'est-ce que Allah a révélé, soit dans le Coran ou soit dans les hadiths, dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que le musulman doit suivre, et c'est ça qu'il est obligé de suivre, et non pas les systèmes ou les lois ou les choses inventées par les non-croyants, hein? Les non-croyants, parce que eux, ils inventent leurs propres lois et ils rendent licite ou halal qu'est-ce qu'ils veulent et ils rendent haram qu'est-ce qu'ils veulent selon leurs désirs, selon leurs passions. Et le musulman, non, le musulman, il se base uniquement sur l'obéissance de Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois par exemple les koufars qui disent par exemple des fois, nous on appelle à la liberté, on veut la liberté, mais en réalité la liberté pour eux c'est de faire uniquement qu'est-ce que leur loi te permet de faire. Si tu veux dans leur système faire qu'est-ce que leur loi a interdit, ils vont te mettre en prison, ils vont t'arrêter, t'as pas la liberté de le faire. Et parfois qu'est-ce qu'ils ont interdit, c'est qu'est-ce que Allah a ordonné, ou parfois qu'est-ce qu'ils ont interdit, c'est qu'est-ce que Allah a permis. Donc toi, tu es un musulman, tu dois dans ton cœur croire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, c'est permis, et ce qu'il a interdit, c'est interdit, peu importe qu'est-ce que la loi des êtres humains prétend ou enseigne ou dit. Ça, c'est très important de le comprendre, tu vois. Et même si, par exemple, tu es dans un pays qui n'est pas un pays musulman, que tu es dans un pays où, même si tu étais dans un pays musulman, mais que dans ce pays-là, il y a des lois qui existent qui permettent ce qui est interdit ou qui interdisent ce qui est permis, toi, dans ton cœur, tu ne dois pas croire que ces choses-là, c'est ça qui est permis ou interdit, mais tu dois toujours revenir à l'ordre d'Allah. Et dans ton cœur, avoir la foi que ce qui est permis, c'est seulement ce que Allah a permis. Et ce qui est interdit, c'est seulement ce que Allah a interdit. Et non pas ce que les hommes se sont rendus licite ou illicite. Et tu vois que dernièrement, maintenant, ils ont permis même le suicide. Il y a une nouvelle loi qu'ils ont fait maintenant, les koufars. Celui qui est malade, il est fatigué, ou bien il est à l'hôpital, ils disent « Ah, il va mourir de toute façon ». Donc, il dit « Oui, je veux mourir, arrêter ma souffrance ». Il veut se suicider, en fait. Et donc, là, maintenant, la loi dit « Oui, les médecins peuvent l'aider maintenant à se suicider. Ils vont lui donner un médicament, puis il meurt. Hein? » Ça, non seulement c'est un suicide, mais en plus c'est un assassinat de la part des médecins, parce qu'ils le tuent avec des médicaments. Même si, comme certaines personnes m'ont dit déjà, même avant la loi, ils le faisaient déjà. Mais ils le faisaient en cachette ou de façon indirecte. Ils donnaient aux malades des médicaments tellement difficiles que sa vie, elle finissait plus vite que... Oui, c'est ça, ils l'achèvent plus rapidement. Mais là, ça y est, ils ont le feu vert, c'est-à-dire là, ils ont inventé une loi qui rend ces choses-là légales maintenant. Et ils vont t'assassiner, ils vont te suicider volontairement. Auzubillah. Donc ça, c'est pour dire comment les hommes ici, ils se rendent des choses licites et ils interdisent des choses sans que Allah les légifère. Et donc, le cheikh, il dit... Il ne faut pas qu'on se laisse tromper par les systèmes des koufars de cette façon, parce que notre religion, c'est une religion qui est, alhamdoulilah, complète et parfaite. Elle n'a pas besoin d'ajout, elle n'a pas besoin d'enlever quoi que ce soit dedans. Et en fait, la réponse, elle est facile pour le musulman qui a la connaissance et qui a la compréhension. À chaque fois que tu vas, par exemple, rencontrer des koufars qui... te posent des questions, ils te disent « Oui, mais vous, est-ce que vous êtes musulman, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ci ou ça, dans votre religion? Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, dans votre religion, que la femme doit se voiler? Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, que dans votre religion, l'homme, il ne doit pas serrer la main de la femme? Est-ce que vous êtes d'accord, dans votre religion, que si quelqu'un fait l'adultère, un homme ou une femme qui fait l'adultère, la peine pour ça, c'est qu'il soit lapidé? Ou que si un homme ou une femme vole, que la punition pour ça, c'est qu'on lui coupe la main. » La réponse du musulman, ça doit être la suivante. Si c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Sunna, et que les sahaba, ils l'ont appliqué, et qu'ils l'ont compris de cette façon, dans ce cas-là, moi j'y crois. Et c'est ça l'islam. Que ça vous plaise ou non. C'est dans le Coran, c'est dans les hadiths authentiques. Et les sahaba, ils ont compris l'application de ces versets et de ces hadiths de cette façon. Alors dans ce cas-là, j'y crois. Et je me soumets à ça. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Comme le cheikh, il a dit, ceux qui changent la religion d'Allah, ça, ils auront... ils méritent le même châtiment que ça, ou bien ils rentrent dans le même verdict que celui qui a changé la religion la première fois. Parce que c'est, de changer la religion d'Allah, c'est grave. Et il y a des gens comme ça, ils ont peur des koufars, ou ils ont peur de qu'est-ce que les koufars vont dire sur eux. Alors chaque fois qu'ils disent quelque chose de la religion, après... Quand les koufars, les médias des koufars, par exemple, ils vont les voir, ils disent « Vous, est-ce que vous dites ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Ils disent « Non, non, Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est arrivé déjà. Je me rappelle, il y a un imam à Montréal, ou bien à Longueuil, ou à Brossard, je ne me rappelle plus. Il a dit à un moment donné, par exemple, que oui, on applique dans l'islam, on coupe la main des voleurs, on va appliquer la lapidation, et comme ça, ça va faire que yani, le crime va diminuer dans la société, il y aura moins d'injustice, il y aura moins de crimes. Là, les médias lui sont tombés dessus, ils ont commencé à le critiquer, parler contre lui, ah, comment il peut dire ça, et des choses de ce genre. Alors, la semaine d'après, tout de suite, il a commencé à dire, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je n'ai pas dit ça, c'était juste un exemple, je donnais comme ça, mais moi, je ne crois pas en ça. A'ouzou billah. Donc, quelqu'un qui yani, agit comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui est sincère. Et il y a des exemples comme ça aussi, de qu'est-ce qui a été dit, par exemple. Comme par exemple, en France, il y a Rachid de Brest, celui que les gens appellent Rachid de Brest. Hein? Eh bien, la même chose. Il invente des mensonges sur la religion d'Allah, déjà. Il était en train de parler avec des enfants, et il disait que celui qui écoute de la musique, il va être transformé en porc ou je ne sais pas quoi. Alors que, wallahi, yani, j'ai jamais entendu ça de la bouche des ulama ou dans les livres des ulama, ce genre de propos. La musique dans l'islam c'est haram, il n'y a pas de doute. Mais quand les médias ont repris ça, lui tout d'un coup il a commencé à changer maintenant. Là tout d'un coup il dit non, j'interdis pas la musique, et même que moi-même j'enseigne la musique, je fais de la musique, le adhan c'est de la musique, je ne sais pas quoi. Avant il portait toujours le chimar, hein, le foulard rouge et blanc saoudien. Et il suivait l'apparence des gens, comment ils s'habillent dans le Moyen-Orient. Là, après, maintenant, il a changé de look. Maintenant, il ne met plus de rien sur sa tête. Hein? Il met même, des fois, il met le pantalon, le chandail, des trucs comme ça. Pour dire que comment il s'adapte avec qu'est-ce que les gens veulent entendre, qu'est-ce que les médias disent. Lui, il ne veut pas contredire. Qu'est-ce que les médias disent maintenant? Ils ont dit de lui que c'est un radical. Même, ils ont même dit que c'est un salafi, alors qu'il n'a rien à voir avec les salafis, que depuis le début qu'il a commencé à faire des vidéos sur YouTube, la première chose qu'il a fait, c'est de commencer à critiquer les salafis, d'attaquer les salafis, et d'insulter les salafis, de dénigrer les salafis, de se moquer des salafis, depuis le début. Et là, maintenant, eux, ils l'appellent salafi, parce qu'ils ne savent pas ce que salafi signifie. Donc il mélange. Mais c'est juste pour dire, la fitna, quand les gens ils commencent à jouer avec la religion, vouloir changer les choses selon leurs passions et leurs désirs, parce que les kuffars ils sont pas satisfaits de toi, ça c'est dangereux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens, ils vont jamais être satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc, yani, reste accroché fermement à la vérité et ne suis pas leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans plusieurs versets. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ne suis pas leur passion. Donc le cheikh il dit, donc l'islam, la religion d'Allah, elle est parfaite. T'as pas besoin d'ajouter dedans, t'as pas besoin d'enlever dedans. Tout ce que t'as de besoin, c'est de la science. Tu as besoin de connaître cette religion-là, de la connaître comme il faut, et de la comprendre, puis de l'appliquer. C'est tout. Hein? Alhamdoulilah, on n'a pas besoin des philosophes qui vont venir philosopher pour nous interpréter l'islam d'une nouvelle manière, parce qu'on est en l'an 2016 ou quoi. Les gens vont dire, ah, mais on est en 2016 maintenant, il faut changer la religion. Hein? Et quand on va être à l'an 4000, si on arrive à l'an 4000, ils vont dire quoi après? Ils vont dire qu'il faut rechanger encore. Yani, c'est comme s'ils sont en train de dire le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas suffisant. Il faut un autre prophète maintenant. Donc eux, ils veulent changer la religion d'Allah. Nas'alullah al-afiyah. Donc le cheikh il dit, فَإِذَا نُفِّذَ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَ فَإِنَّهُ لَا يُضَاهِيهِ أي نظام أو شرع حتى الشرائع السابقة لا تضاهيه. لأنه أكمل وأتم وأوفى منها. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة وأن يحافظوا عليها وأن لا ينخدعوا بأنظمة الكفار وعاداتهم، فما رضيه الله لنا أحسن وأكمل. Donc le cheikh il dit que si on applique la religion avec science et avec compréhension, il n'y a aucun système et aucune législation qui peut être comparable et lui ressembler. Il dit même les législations qui ont été révélées auparavant, elles ne peuvent pas être comparées à l'islam. Pourquoi ? Parce que la législation islamique, elle est plus parfaite et plus complète et plus, yani, plus juste que yani, les révélations précédentes. Et il dit le verset 3 dans Sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: aujourd'hui, j'ai complété pour vous, ou j'ai parfait pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et donc il dit qu'il est obligatoire donc aux musulmans d'être reconnaissants envers cette grâce d'Allah et de la préserver et de ne pas se laisser tromper par les systèmes des koufars ainsi que leurs traditions et leurs coutumes, parce que ce que Allah nous a donné, c'est ce de quoi il est satisfait pour nous, et c'est meilleur et plus parfait et plus complet. Donc on n'a pas besoin d'autre chose. Et donc il y en a des musulmans, parmi les musulmans qui n'ont pas de compréhension et de connaissance de la charia et de l'islam, au lieu de juger le système des koufars par l'islam, pour voir ses erreurs, pour voir les erreurs du système des koufars, pour voir les manquements du système des koufars, pour voir les imperfections du système des koufars et de leurs lois, au lieu de se baser sur la charia pour juger leur système, ils font le contraire. Ils jugent l'islam en se basant sur les lois des koufars pour dire: ah ben l'islam elle a pas qu'est-ce que les koufars ont, les koufars ils ont ça 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 et nous on n'a pas ça ça ça, alors que toi t'es en train de comparer la loi des hommes, que les hommes eux-mêmes qui sont ignorants, faibles et injustes par nature, par leur nature profonde même, tu compares ce que eux ils ont inventé à ce que le Créateur des cieux et de la terre a révélé. Il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux, déjà à la base, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé. Les koufars, eux, ils ne croient pas que le Coran vient d'Allah. Ils ne croient pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'a envoyé à l'humanité. Eux, qu'est-ce qu'ils pensent ? C'est que c'est un homme comme les autres qui a dit des choses de lui-même et qui les a enseignées et que des gens l'ont suivi. Mais pour les musulmans, on sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas ce qu'ils prétendent. On sait que la vérité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Créateur des cieux et de la terre, hein, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'Omniscient, le Maître de toutes choses, hein, il a révélé cette parole, qui est sa parole, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam dans le Coran, et il lui a également envoyé la Sunna pour qu'il puisse guider l'humanité vers la vérité. Et lorsque tu es juste et honnête et que tu étudies cette révélation avec ce qu'elle contient comme loi et comme règle et comme enseignement, tu vois qu'elles sont des lois et c'est une loi et une voie qui est claire et qui est juste et qui est rempli de sagesse et qui contient la vérité. Mais celui qui est aveuglé, hein, et qui suit ses passions, il ne va pas voir. Même si tu lui montres, il ne va pas croire, hein, parce qu'il suit ses désirs et sa passion. Donc le cheikh il dit: وَفِي قِصَّةِ عَمْرِ بْنُ لُوحَيْ تَحْذِيرٌ مِنَ السَّفَرِ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خَشْيَةِ التَّأَثُّرِ بِدِينِهِمْ وعليه فيجب الحذر من الذين يسافرون إليهم لأنهم غالبا لا يسلمون من التأثر بهم والإعجاب بما هم عليه. Le cheikh, il dit un point ici qui est très important. Il dit que dans l'histoire de Amr ibn Luhay, il y a une leçon qui nous met en garde contre le fait de voyager dans les pays des kuffars. Il dit, il faut faire attention quand tu voyages dans les pays des kuffars et d'y aller. Pourquoi? Parce que tu risques d'être influencé par leurs croyances, par leur religion, par leurs pratiques, par leurs coutumes, par leurs traditions, par leurs lois, par leur système. Et donc c'est obligatoire que tu prennes tes gardes pour ceux qui voyagent chez eux ou qui vivent chez eux comme nous par exemple, parce que il dit que en général ceux qui vont là-bas, ils sont pas exempts de se faire influencer et d'être éblouis par qu'est-ce qu'ils font et par qu'est-ce qu'ils disent. Donc ça c'est pour dire que yani, quand tu vas vivre chez, tu vis chez les Koufas, tu regardes qu'est-ce qui est arrivé à Amr ibn Luhay. Il est parti en Syrie et il a vu qu'ils adoraient des idoles, il a trouvé ça beau, il a dit ah moi je vais ramener ça chez moi. Qu'est-ce qui arrive avec les musulmans ici quand ils viennent chez les Koufas? Soit ils viennent en Europe ou ils vont en Amérique du Nord ou ailleurs. Ils voient chez eux des choses, ils disent « Ah, j'aime ça, ça c'est bon, ça c'est beau, ah, je le ramène chez nous. » Il s'en va dans le pays musulman, il ramène ça. Toutes les faussetés, les choses, les formes d'égarement, les différentes modes, les différentes façons d'agir, de penser, de vivre, les croyances et tout, tu les vois, ils ramènent ça dans les pays musulmans, et puis là-bas maintenant, tu les vois qu'ils le font eux aussi. Et donc ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les musulmans ont voyagé chez les koufars et qu'ils se sont fait influencer. Et donc c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans qui viennent chez les koufars, de un, ils n'ont pas de connaissance de la charia. Beaucoup de musulmans qui viennent vivre chez les koufars ou qui viennent étudier chez les koufars ou qui viennent temporairement ou bien ou pour d'autres raisons chez les koufars, ils n'ont pas étudié la charia d'Allah ni la aqida de l'islam. Donc ils arrivent ici, la seule chose qu'ils connaissent de l'islam, c'est l'islam traditionnel. Qu'est-ce que leurs parents leur ont enseigné, qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur pays, même si c'était, ils savent pas si c'était la sunna ou non, est-ce qu'ils ont les adillah, ils savent pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont appris, c'est ça qui était pour eux l'islam, que ce soit vrai ou non, ils savent pas. Après ils arrivent ici, ils se mélangent avec les gens, ils voient toutes sortes de choses, ils savent pas comment appeler les gens qui ne sont pas musulmans à l'islam, parce qu'ils ne connaissent pas leur propre religion de l'islam comme il faut, ils ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent pas la aqidah, ils ne connaissent pas la sunna, et ils ne connaissent pas non plus la religion des autres. Ils ne connaissent pas le christianisme comme il faut, ils ne connaissent pas le judaïsme comme il faut, ils ne connaissent pas les religions des autres, c'est-à-dire les bouddhistes, les hindous, les athées, ils ne connaissent pas leurs croyances en détail pour être capables de trouver les erreurs de ces religions-là, pour être capable de leur montrer et de les faire douter en leurs croyances pour les ramener à la croyance de l'islam par la suite. Ils savent pas faire ça. Parce que pour faire ça, il faut avoir du ilm, il faut avoir de la science. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des gens pour appeler à l'islam, il envoyait que des ulama. Il envoyait que parmi les sahaba, que ceux qui avaient une bonne connaissance, une bonne compréhension de la religion. C'est pour ça qu'il a envoyé, par exemple, Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Parce qu'il savait qu'il avait la connaissance suffisante pour être capable de les convaincre et de les amener à l'islam et de leur expliquer l'islam comme il faut et de leur montrer la fausseté de leurs croyances. Donc, ce n'est pas n'importe qui est capable de faire la da'wa et ce n'est pas n'importe qui non plus qui est apte à être capable de présenter l'islam à des non-musulmans puis de vivre parmi eux et de ne pas se faire influencer par eux. Donc, si tu ne connais pas ta religion comme il faut, et tu ne connais pas la religion de ceux chez qui tu t'en vas comme il faut, tu vas là-bas, à long terme, si toi tu réussis à t'attacher à ta croyance ou à ta pratique, mais allez, tu ne peux pas garantir la même chose pour tes enfants ou ta progéniture, excepté si Allah décide de les sauver ou de leur faire miséricorde. Mais en général, là, beaucoup de gens se laissent aller complètement et ils se perdent. Et pire encore, s'ils retournent dans leur pays avec les mauvaises idées qu'ils ont, Et ils sont éblouis par les koufars, ils disent « Ah, j'étais là-bas, dans ces pays-là, et voici ce que les gens faisaient, et voici ce que les gens disaient. » Et là, il retourne dans son pays, commence à critiquer. Il critique tout. « Ah, vous, vous faites ça, vous faites ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Là-bas, ils font pas ça comme ça, ils font ça comme ça, ils font ça comme ça. » Mais il ramène rien. Il fait juste critiquer. Donc ça c'est pas quelque chose qui est positif ou productif. Il faut donner la nasiha avec sagesse, il faut appeler à changer s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Il faut le critiquer, mais avec sagesse et avec science et avec connaissance et avec patience et avec douceur et ainsi de suite pour améliorer les choses. Pas pour critiquer les gens pour les dénigrer et pour que et par la suite, au contraire, au lieu de les ramener à qu'est-ce qui est bien, tu les amènes vers qu'est-ce qui est mauvais. Donc, tout ça, c'est correct. Et une des choses qui est importante à comprendre aussi, surtout, et ça, c'est un message que je veux donner en particulier aux musulmans qui vivent au nord de l'Afrique, ceux qui viennent des pays du nord de l'Afrique, c'est parce que les pays du nord de l'Afrique, en particulier, c'est les pays qui sont les plus proches de l'Occident, si on veut, géographiquement. Et on peut voir que le nord de l'Afrique, c'est la porte pour le reste des pays musulmans. Donc, c'est important que les pays du nord de l'Afrique aient donc encore plus fassent encore plus d'efforts pour étudier l'islam, connaître comme il faut avoir une bonne aqidah, une aqidah forte, une bonne connaissance de l'islam et une bonne pratique de la religion pour être capable de préserver leur islam, de l'enseigner et aussi de la propager. D'accord? Et de se préserver des choses mauvaises qui viennent justement de l'Europe et qui viennent des koufars de l'Occident. Parce que les koufars, eux, même s'ils n'appellent pas à nécessairement. Il y en a qui appellent au christianisme. Parmi les Européens et les Américains, il y en a qui vont pour appeler au christianisme. Mais la majorité d'entre eux, ils appellent pas au christianisme. Donc les musulmans, ils baissent leur garde avec eux. Ils disent « Ah, mais ils appellent pas au christianisme, donc c'est pas grave, tant qu'ils appellent pas à la religion. » Mais ils appellent au kufr. Ils appellent au kufr, ils appellent à des idéologies, à des croyances et à un mode de vie qui contredit l'islam. Donc même si c'est pas une religion, même si ce n'est pas une religion, c'est quand même quelque chose qui t'égare du chemin d'Allah et de la religion d'Allah. Donc le musulman, il doit se préserver, il doit être plus fort pour être capable de repousser ces influences-là. Malheureusement, on trouve peu de gens qui font des efforts. Il y en a des frères, alhamdoulilah, qui font des efforts pour essayer d'apprendre l'islam et de l'appliquer. Mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il faut faire plus d'efforts que ça pour qu'il y ait des tolab ilm, pour qu'il y ait des gens qui apprennent la religion et qui la propagent. Comme par exemple, tu vois, par exemple, en ce moment, qu'est-ce que je connais par rapport au nord de l'Afrique actuellement, c'est l'Algérie où il y a plusieurs parmi des mashaykh et des du'at et des tolab ilm qui sont forts, qui enseignent l'islam là-bas. Mais ça, c'est nécessaire aussi qu'il y en ait dans les autres pays aussi, au Maroc, Tunisie et les autres pays de l'Afrique du Nord, et pas seulement l'Afrique du Nord, mais partout aussi. Puis aussi, il faut qu'il y ait de la da'wa aussi qui se propage dans l'Afrique de l'Ouest aussi, et puis partout dans l'Afrique du Nord, pas seulement l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique de l'Ouest et tout. Il faut qu'il y ait des échanges entre les gens qui sont sur la sunna dans ces pays-là, qu'ils communiquent entre eux et qu'ils essaient d'apprendre les uns des autres, surtout par exemple les gens qui ont du ilm. C'est ça. Non, je disais, il y a des frères qui sont sur la sunna dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Je leur dis, allez, communiquez avec les mashaykh, les ulama, soit dans les pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, ou bien ceux qui sont en Algérie aussi, les mashaykhs de l'Algérie. Disons, c'est vrai que la langue, ça peut être une barrière, mais il y a toujours des gens qui sont capables de traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Alhamdoulilah, il y a des gens qui peuvent traduire, et sinon eux, il y en a là-bas qui sont arabophones aussi, ils peuvent traduire. Si c'est pas dans la langue locale, ils peuvent traduire en français. Sinon, il y en a qui connaissent même l'arabe et la langue locale, ils peuvent traduire dans les langues locales. Oui, mais ça c'est du, comme on dit, c'est du show business. Hein, c'est quand ils invitent des gens comme Tariq Ramadan, c'est plus pour faire des spectacles que pour enseigner quoi que ce soit. Il y a toujours l'égarement, tu vois, c'est toujours plus facile à suivre que la vérité. Donc c'est pour ça, yani, mais nasallallahu al-afiyah. Le cheikh, il dit, wa fi qissati Amr ibn Luhay. Donc il dit, faut faire attention à ça, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser attraper par les mauvaises influences des koufars, surtout quand tu vas, par exemple, tu vis en Europe, dans un pays musulman, tu ramènes avec toi les mauvaises habitudes des koufars chez les musulmans. Ça, c'est pas bon. Et malheureusement, il y en a beaucoup de jeunes qui ont cette mentalité-là, qui regardent les musulmans dans les pays musulmans avec un regard comme s'ils se voient au-dessus d'eux. Quand ils retournent, c'est comme par exemple, ils ont vécu dans les pays des koufars, ils vont dans leur pays d'origine, ils se pensent supérieurs aux musulmans qui vivent dans ces pays-là. Hein? Et des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est d'autres attitudes. Mais toutes ces choses-là, ça vient pas de l'islam. Ça vient du comportement ou des idées, des pensées des gens qui s'éloignent du comportement de l'islam. Donc, il faut qu'on adopte la mentalité, les principes de la religion de l'islam et non pas la mentalité des koufars. Et qu'est-ce que les koufars nous disent? Des fois, en Europe, j'ai entendu souvent, par exemple, les gens qui parlent de ceux qui viennent des pays musulmans. Ils les appellent, les gens qui viennent des pays musulmans, ils les appellent les blédards. On dit, ah, ceux-là, c'est des blédards. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui viennent des pays musulmans, pratiquent l'islam, des fois, mais des fois, bon, ils ne sont pas nécessairement pratiquants, mais souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne pratiquent pas la sunna. Pas des gens qui sont sur la sunna ou sur la compréhension correcte de la sunna. Alors, ils viennent dans les pays de Kufr et ils font toutes sortes de choses bizarres, des fois, qui ne sont pas en accord avec la religion. Alors, quand les musulmans qui viennent des pays de l'Europe, ou qui viennent des pays, par exemple, de l'Amérique du Nord ou autre, ils voient des gens comme ça, ils disent, comment ça se fait, ces gens-là, ils viennent des pays musulmans, puis ils sont comme ça. Hein? Ils ont un drôle de comportement, ils n'appliquent pas l'islam, ils ne pratiquent pas l'islam comme il faut, et pourtant, ils viennent des pays musulmans. Donc, ça crée des conflits entre eux, tu vois. Et en même temps aussi, il y en a qui viennent, qui ont accepté la sunna dans les pays non musulmans, qui retournent dans les pays musulmans, puis qui dénigrent les musulmans qui sont dans les pays d'origine, c'est-à-dire dans ces pays-là. Et ça aussi, c'est une attitude, un comportement qui est inacceptable, qui n'est pas correct. Donc il faut en fait se débarrasser de ces attitudes-là et de ces comportements-là et de ces attitudes. Il faut plutôt considérer les musulmans comme des frères. C'est-à-dire, toi, tu vas dans les pays musulmans, tu regardes les gens qui sont dans les pays musulmans, tu les considères comme tes frères. Et eux, ils doivent te considérer aussi comme des frères. Et à l'époque des Sahaba, quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les muhajirin et les ansar, il les décrit comme s'ils sont généreux envers les muhajirin et ils les préfèrent à eux-mêmes. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. C'est-à-dire, ils les aiment. Ils aiment les gens qui viennent émigrer vers eux. Hein? Et ils trouvent en eux-mêmes aucune jalousie, aucune gêne pour qu'est-ce qu'ils ont reçu. Et même qu'ils les préfèrent à eux-mêmes. même si eux-mêmes ils ont déjà de la difficulté, ils ont peu de biens, peu de nourriture, mais ils vont quand même le donner parce qu'ils pensent à eux plus qu'à leur propre personne. Ça, c'est l'attitude comment agissaient les premiers musulmans entre eux. Donc nous, il faut qu'on développe ces caractéristiques-là. Aujourd'hui, les gens ne voient plus la vie par rapport à la foi, et dans le sens qu'ils ne jugent plus les choses de la vie par rapport à l'islam et à la foi de l'islam. Ils jugent la vie par rapport à l'argent, par rapport à l'économie, par rapport au travail. Tout ce qu'ils pensent seulement, c'est l'argent. Hein? C'est ça qui est triste. À l'époque des Sahaba, ils mettaient la foi au-dessus de l'argent. Et ils s'entraidaient entre eux, hein, dans ces questions-là. Quelqu'un, il voulait faire la hijra. Déjà, il venait, on l'accueillait les bras ouverts. Aujourd'hui, si tu vas faire la hijra dans certains pays musulmans, on ne t'accueille pas là, les bras ouverts. On te voit comme si quelqu'un qui vient, hein, qui n'est pas... quelqu'un qui est de trop, oui, c'est ça. Donc il faudrait qu'il y ait un changement à ce plan-là. Puis ce changement-là, il peut seulement venir avec l'éducation, avec la connaissance, avec le fait d'enseigner aux gens la réalité de l'islam. Les musulmans, maintenant, des fois, tu retournes dans un pays musulman, ceux qui sont là-bas, ils te disent, toi, tu étais en Amérique, tu étais au Canada, tu étais en Europe, tu viens ici, pourquoi tu t'as quitté là-bas? Retourne. Ajib, subhanallah. Tu essaies de lui expliquer, écoute, moi je suis venu ici pour pratiquer ma religion mieux. Ils disent, non, pourquoi? Là-bas il y a de l'argent, ici il n'y a rien. A'udhu billah. Et je me rappelle, j'étais à Médine, al-Madin al-Munawwara, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai rencontré un musulman d'un des pays du Moyen-Orient, mais qui vient de Yanni, parlait français. Alors j'étais surpris de le voir justement qui parlait français. Alors je lui ai demandé d'où il venait. Et lui, il m'a demandé d'où je venais. Alors je lui ai dit, moi je viens du Canada. Et il me demande qu'est-ce que je fais là-bas. Je viens pour la Umrah. J'ai dit, non, j'étudie ici. Il me dit, comment ça tu étudies ici? C'est là-bas que tu dois étudier, c'est pas ici. Toi, tu viens ici pour étudier? Non, c'est là-bas qu'il faut étudier. Il dit, moi, si je peux aller là-bas, je m'en vais. Et là-bas, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, n'importe qui, tu rencontres dans un magasin, un employé, un travailleur là-bas, dans un restaurant, dans une épicerie, un magasin. Depuis que tu lui dis, par exemple, je viens du Canada, ça y est. Il dit, oh, mais je veux venir là-bas, comment je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais venir au Canada. Tout le monde, il y a, à chaque fois, tu vois des choses comme ça. Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un qui te dit « qu'Allah te sauve de ce pays, mon frère. Tu viens du Canada, qu'Allah te préserve. Qu'Allah te sauve, toi et ta foi, ainsi que ta famille, pour que tu puisses quitter ce pays et venir rester dans un pays musulman pour sauver ta foi, sauver ta pratique, sauver ta religion et faire des doigts pour toi. » Non, au lieu de ça, il dit « Non, pourquoi? Moi, je veux venir là-bas. Là. » A'ouzou billah, tu vas venir faire quoi ici? Hein? Tu vas venir quoi? Tu vas te rapprocher d'Allah en venant ici? Tu vas te rapprocher du paradis? Tu vas te rapprocher de la science? Tu vas te rapprocher des ulama? Tu vas apprendre mieux le Coran? Tu vas apprendre mieux la sunna? Tu vas faire plus la salat? Tu vas faire moins de péchés quand tu vas venir ici? Ou bien tu vas juste, au contraire, t'éloigner plus d'Allah, t'éloigner plus de la religion, t'éloigner plus de la salat, t'éloigner du zikr, te rapprocher des péchés, te rapprocher du haram? Donc, les gens, ils ne voient pas ça. Et puis, en plus, le problème aussi, des fois, il y en a qui disent, oui, mais dans nos pays, il y a des choses haram aussi. Il y en a des péchés là-bas aussi. Et ici, il y en a, là-bas, il y en a. J'ai dit, oui, mais est-ce que tu compares la quantité, l'incomparable, tu le compares? Je dis, là-bas, il y a des péchés, oui. Il y a pas, on n'est pas des anges. Les musulmans, ce n'est pas des anges. Il y a des gens qui font des péchés, il y en a qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a des gens qui... Hein, mais quand même, c'est des musulmans. Tandis qu'ici, non seulement ils font des choses haram, mais ils considèrent que c'est halal. Ils font qu'est-ce qu'il n'y a pas pour eux de différence. Il n'y a pas de religion qui unit les gens, il n'y a pas de croyance qui unit les gens, chacun il croit à n'importe quoi. Donc il n'y a pas de base sociale, religieuse qui est établie, qui est un fondement dans la société, il n'y en a pas. Tandis que dans les pays musulmans, tu sais que la base c'est la religion. Hein? Et même s'ils n'appliquent pas tous les principes et les enseignements de la religion musulmane dans certains pays musulmans, mais quand même, la famille, la société, les règles sociales, tout s'est basé à la base sur l'islam. Hein? Et il y a une base, il y a quelque chose. Ces pays-là, ils ont été conquis par l'islam pour les musulmans. Alors que historiquement, en Europe et en Amérique, on sait que ce n'est pas des pays musulmans. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Tu vois? Donc il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent aux autres et qui refusent de constater, de voir la réalité et la vérité en face et d'accepter la réalité. Donc il y a des ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à corriger dans les pays musulmans, qu'il n'y a pas des améliorations à faire dans les pays musulmans. Il y en a des choses à améliorer, il y en a des choses à changer, il y en a beaucoup de travail à faire. Mais le problème de beaucoup de musulmans, c'est que eux, ils veulent juste prendre les fruits, le bien et profiter, mais ils veulent rien donner, ils veulent rien faire avec leur effort eux-mêmes pour améliorer les choses. Ils veulent que tout soit déjà fait, que tout soit déjà fini, que tout soit déjà prêt, que tout soit déjà bon, juste le prendre puis le mettre dans la bouche. Hein? Si par exemple, t'as des graines pour faire pousser des fruits et des légumes, mais que tu as le champ, tu as les graines, mais tu ne veux pas travailler pour labourer la terre, pour le semer, pour l'arroser, pour le récolter. Tu dis non, je veux que les fruits soient déjà là et je veux que les légumes soient déjà poussés. C'est ça l'attitude de beaucoup de musulmans, c'est ça. Donc ils ne veulent pas faire le travail pour arriver à récolter les fruits, ils veulent les fruits déjà, sans faire le travail. Donc il dit, je m'en vais chez les koufars, là-bas je vais juste manger les fruits. Mais dans les pays musulmans, beaucoup de travail à faire avant d'avoir ces fruits-là et ces choses-là. Toi, tu ne veux pas faire ce travail-là. C'est trop long, c'est fatigant, ça prend beaucoup de temps. Et exactement, barakallahu fik, même chez les koufars, ils ne te donnent pas gratuitement ces fruits-là. Et même les choses qu'ils te donnent, ils te le donnent parce qu'ils l'ont enlevé ailleurs pour le donner à toi. Ils ne donnent rien gratuit, il n'y a rien qui est gratuit. Donc, tout ça c'est juste pour nous rappeler, parce que de toute façon, beaucoup d'entre nous, on est, comme on dit, fi rafla. On est dans l'insouciance et l'indifférence. Et donc, il faut qu'on se réveille un jour ou l'autre, que Allah nous aide et nous facilite. Naam. Donc, c'est un rappel pour nous tous. Et si on n'est pas encore, c'est comme il y en a qui disent, « Oh, mais toi, tu parles de hijra, tu n'as pas fait la hijra, pourquoi tu es ici ?» Oui, c'est vrai, je parle de hijra et je n'ai pas fait la hijra. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me le faciliter. Et j'ai l'intention. Et l'intention, pour celui qui n'a pas la capacité, c'est comme s'il l'avait fait. S'il a l'intention sincère. Tandis que celui qui a l'intention, pas de faire la hijra, de faire le contraire de la hijra, c'est de quitter les pays musulmans pour aller vivre chez les koufars, ça c'est le contraire de la hijra. C'est pas la hijra. Ils ont posé la question à Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ils ont dit, un jeune, il a fait la hijra, il est allé vivre en Italie. Il a dit, hein, comment ça la hijra? Il dit, ça c'est pas la hijra. Il a dit, la hijra, tu quittes les pays de Kufr pour aller dans les pays musulmans. Il dit, ça c'est pas la hijra, ça c'est hijra al-tuyur. Hein? Hijra al-tuyur, c'est l'immigration des oiseaux. C'est pas la hijra de l'islam. Donc on utilise des termes aujourd'hui mais on déforme leur signification, on utilise les mots pour autre que ce qu'ils signifient réellement. On n'a pas le droit d'utiliser le terme hijra pour décrire une personne qui quitte un pays musulman pour venir chez les kuffars. On n'a pas le droit de les appeler des muhajirin, contrairement à Qardawi. Dans ses livres, il dit ça. Il dit que les musulmans qui sont venus vivre ici, c'est comme des muhajirin. Et ceux qui sont installés déjà ici, qui ont des communautés, c'est comme des ansars. C'est ça qu'il dit. Donc ça, c'est déformation de la réalité de la religion de l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, biznillah. Puis on va continuer la semaine prochaine avec ce cours. On avance de plus en plus dans le livre. Et c'est un livre, parmi les livres qui ont été écrits dans l'histoire de l'islam, vous n'en trouverez pas un qui est comparable à celui-là. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit ce livre qui est unique dans son sujet et dans la façon de l'aborder. Le sujet, comment il a expliqué, comment les musulmans ne doivent pas imiter les kuffars et pourquoi c'est si important. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, on est loin de ça, surtout parce que nous, on vit dans les pays non musulmans. C'est très important de se rappeler de ça tout le temps et de revenir sur ce principe-là. Ok, et ça, et surtout à notre époque. Parce que là, il y a toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de gens qui font des choses qui sont contraires à l'islam, au nom de l'islam, puis qui font passer les musulmans pour des extrémistes. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui poussent de l'autre côté. Il y a ceux qui poussent de l'autre côté pour dire aux musulmans, ben ça veut dire dans ce cas-là, il ne faut plus pratiquer l'islam, il faut commencer à s'éloigner pour qu'on ne soit pas accusé d'extrémisme, donc il faut laisser l'islam. Ou bien des choses qui amènent à laisser l'islam, soi-disant parce que si tu pratiques l'islam, tu vas être appelé extrémiste ou des choses comme ça. Donc, ils appellent à l'autre extrême. Et donc, ce n'est pas parce que certaines personnes appellent à un extrême que nous, on doit aller dans l'autre. Il faut rester dans le juste milieu. Pas aller dans un extrême ni dans l'autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أي نعم donc c'est clair que ouais. Le frère il demande par rapport à la da'wa dans les pays de kufr, est-ce que c'est wajib pour certains? Oui, c'est clair, c'est obligatoire pour certains de faire la da'wa, mais en même temps aussi il y a toutes sortes de choses, c'est-à-dire à prendre en considération, comme on a dit, il faut qu'il y ait du ilm, il faut que la personne ait les moyens de se préserver de toutes sortes de choses mauvaises aussi. Puis aussi, comme Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il disait dans un cours ou dans une réponse à cette question, il disait qu'il faut que la personne, là, si elle est en sécurité dans les pays de Kufr, elle a sa famille. Sa famille, hein, c'est pas, il ne peut pas la laisser comme peut-être ses enfants, des choses comme ça. C'est difficile s'il les laisse comme ça. Donc il disait, le mieux, c'est que tu vas t'installer dans un pays musulman, puis tu reviens de temps à autre, un mois ou deux, ou trois par année, pour faire la da'wa, puis après tu retournes dans un pays musulman. Mais tu ne vas pas rester constamment ou définitivement. Parce que sinon, dans ce cas-là, tes enfants ils grandissent ici, et après, ça devient compliqué par la suite. Et de plus en plus, les kuffars, quand ils voient que les musulmans continuent à s'accrocher à l'islam, malgré qu'on vit ici depuis des années, on est resté accroché à l'islam, ça les enrage de plus en plus, ils deviennent de plus en plus agressifs contre les musulmans, dans le sens qu'ils font de plus en plus des lois qui rendent la pratique de l'islam de plus en plus difficile. Et en France, surtout, ils ont interdit le niqab, ils ont interdit le hijab, ils ont interdit plein de choses. Donc, on voit que plus ils voient que leur message n'arrive pas à traverser chez les musulmans et à les égarer, donc ils deviennent impatients, et ils deviennent agressifs et commencent à faire de plus en plus des lois pour interdire la pratique de l'islam aux musulmans. Et yani, donc, en agissant ainsi, tu vois que d'un côté, ça rend la pratique religieuse plus difficile, mais d'un autre côté, ça fait réaliser aux musulmans à quel point ils doivent faire des efforts pour préserver leur religion, puis que s'ils doivent partir, ils doivent partir. C'est tout. S'ils doivent partir, ils doivent partir, parce que c'est plus important de préserver ta religion que de préserver ta dunya. Ta religion, elle a plus d'importance et plus de valeur que ta dunya. Et les sahaba, ils ne réfléchissaient pas deux fois. Si on leur disait, qu'est-ce que tu préfères, abandonner ta religion ou abandonner ta maison et ton argent, ils disent, j'abandonne ma maison et mon argent, je préserve ma religion. C'était comme ça les sahaba. Mais nous aujourd'hui, si on a le choix entre ta religion et ta dunya, beaucoup de gens, malheureusement, ils penchent vers la dunya, plus que vers la religion. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.